Merci Anne-Marie, merci c'est vrai à ce Dieu trois fois saint. Merci aussi à Mélodie et puis Anne-Laure là, pour toutes les deux avoir nous entraîner dans la louange. Et c'est vrai que c'est chouette de voir comment Dieu agit et comment il parle encore et encore, toujours. Et je voudrais vraiment encore nous remettre tous entre les mains de notre Père, notre Dieu trois fois saint. Oui Père, merci à toi. Merci à toi, Seigneur Jésus. Merci à toi, Saint-Esprit, parce que tu veux encore nous parler. Tu veux nous te révéler à nous, tout à nouveau. Nous sommes là encore pour entendre ta parole. Nous sommes là pour cheminer encore sur ce chemin. Et tu nous as placés ici, tu nous as réunis ce matin. Tu as fait de nous ce corps ici, à Prévesin. Tu as placé des liens fraternels. Tu as mis en nous cette communion, pour que nous puissions justement te glorifier, pour que nous puissions aussi nous faire du bien et nous édifier les uns les autres. Et nous attendons à toi encore ce matin pour que tu nous révèles, pour que tu nous montres, pour que c'est vrai, cette parole puisse nous sonder, pour que le Saint-Esprit vienne aussi au plus profond de nous, dans notre intimité, nous faire discerner dans nos vices qui est à corriger, et puisse nous guérir, qui puisse aussi nous panser nos plaies, qui puisse nous relever si nous sommes fatigués aussi. Nous attendons vraiment à toi, sois béni à toi Saint-Esprit, sois béni à toi le Seigneur Jésus et à toi le Père qui nous a pardonnés. Amen. Alors ce matin, ce que je vous propose, c'est de continuer un peu plus loin dans notre voyage, dans cette conquête que nous sommes en train de faire, et vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes sur ce chemin de la conquête. Et on a pris cette série de conquêtes en prenant le peuple d'Israël qui avance et qui avance toujours plus profond en Israël. Et c'est aussi ce que nous faisons, nous, dans nos propres vies. Et ce matin, on va aller un peu plus loin. On voit qu'il y a des combats. On a vu que l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements est important. On voit que l'ennemi, il y a un combat à mener. Et qu'il y a d'autres moyens, et ce qu'on va voir ce matin, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'histoire des Gabaonites, avec leur ruse, et comment ils ont pu infiltrer aussi le peuple d'Israël. Mais avant ça, je voudrais vraiment revenir et refaire un petit feedback, parce que tout le long de cette conquête à Israël, ce que faisait ce peuple, il revenait à Gilgal systématiquement. Et on va voir que quand ils ne revenaient pas à Gilgal, c'est là que ça allait moins bien. Et Gilgal, c'était le lieu où ils avaient traversé le Jourdain, c'était le lieu où, enfin, ils avaient accès à cette promesse, ils avaient accès à ce pays-là. Et donc ce matin, ce que je vous propose, avant d'avancer un peu plus avec cette histoire de Gabaon, des Gabaonites, de voir que ce pays promis qui est là, pour nous, ce que ça veut dire. Et ça veut dire que c'est un nouveau pays pour eux, c'est quelque chose, c'est plus le désert. C'est un nouveau pays. C'est un pays, comme Anne-Marie nous l'a lu dans Ésaïe 44, où il y a de l'eau. Déjà, ils passent le Jourdain, il y a tellement d'eau qu'ils sont obligés de mettre des pierres pour cheminer. Et il y a de l'eau. Ils n'ont plus besoin d'avoir un rocher pour s'abreuver, mais il y a de l'eau. Il n'y a plus besoin d'avoir la manne, parce que c'est fini. La manne, c'était dans le désert. C'est maintenant, les promesses sont là. La nourriture est là. Tout est préparé d'avance. Et tout est nouveau. Et donc aussi, c'est devenu aussi un nouveau peuple. Tout ce qui était ancien sont passés. Et c'est un nouveau peuple qui se présente là. Et donc pour nous aussi, cette conquête, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une vie de victoire. C'est une vie de racheté. C'est une vie pleine et entière. Et on dit souvent ça, mais c'est une vie en abondance qui se présente. Et pour nous, donc, il y a aussi une conquête de nos propres vies. On a amené cette conquête, on a été racheté, hein, on a été racheté à grand prix par le sang de Christ. Et ça, ça ébranle qui ? Ça ébranle Dieu lui-même, ça ébranle le Saint-Esprit aussi. On a parlé du Saint-Esprit et ce matin on va y revenir encore profondément, parce que le Saint-Esprit, du moment qu'on accepte qu'on est racheté à grand prix, qu'on prend ce message, mais Dieu ne peut pas faire autre chose que venir nous inonder, que faire, comme on l'a prié, faire déverser en nous des torrents de grâce. Et donc le Saint-Esprit vient nous habiter. Subitement, quand nous croyons en Christ, quand nous tournons vers lui, nous devenons l'habitation du Saint-Esprit. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et je voudrais afficher ce verset de 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous rappelle ça. « Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? Car vous avez été rachetés à grand prix, et donc glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Cette idée que c'est fini, nous sommes dans un nouveau peuple, nous avons une autre propriété, et nous-mêmes, notre corps n'est plus notre propriété. C'est quand même, ça nous engage, ça nous fait réfléchir cette histoire. Et on a un peu évoqué cet aspect-là avec l'étude biblique quand on a parlé de la jalousie de Dieu. On a d'autres versets qui nous disent que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Hein. Il y a cette jalousie, et tout ça, on l'a vu, c'était motivé par cet amour infini qui a un but. Ce but, c'est lui permettre ici, de permettre à Dieu d'avoir sur cette terre et à travers aussi tous les âges, la gloire. Dans la gloire grâce à un peuple qui lui appartient. Et cette idée donc qu'on n'appartient pas, que notre corps ne nous appartient pas à nous-mêmes, peut-être, c'est vrai, ça nous fait tomber de haut, mais vraiment ça nous aide aussi à comprendre l'ampleur de l'œuvre de Christ et nous aide aussi à laisser un peu plus la place au Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Et ça, c'est justement ça, cette nouvelle vie que la présence du Saint-Esprit met en action dans chacune de nos propres vies. Et ce sont des vies de racheter, ce sont pas... Et c'est pour ça que nos vies, finalement, ne nous appartiennent plus. Et donc, quand nous vivons, ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, quand nous rentrons dans cette vie qui est désirée par Dieu, donc cette vie en abondance, on voit, c'est cette nouvelle créature. Et c'est 2 Corinthiens 5, verset 17 qui nous rappelle ça, je le remets aussi. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et donc, ce qui caractérise bel et bien cette nouvelle vie, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Cette présence qui fait que lui, le Saint-Esprit, prend possession des lieux, il prend possession de notre corps, et ce n'est pas une possession, comme on pourrait dire, spirituelle ou démoniaque, en faisant des paraboles un peu opposées, parce qu'on connaît l'amour de Dieu, on connaît la qualité de son amour et de sa patience et de son œuvre bénissante, guérissante en nous, mais c'est cette possession de ce corps qu'on veut lui laisser librement. Et ce qui fait finalement le Saint-Esprit en nous, hein, ce temple, dans quel état il est, ce temple? Et donc, il va nous aider à l'aménager finalement. On voit que, on sait très bien que si on arrive dans un hôtel et puis que c'est sale, c'est le chenil, on voit que de la poussière qui traîne ou c'est mal lavé, on est un peu sur notre faim, quoi, hein, on est un peu déçu des choses. Et je pense que le Saint-Esprit, de la même façon, il peut être attristé, et il est attristé si l'accueil qu'on lui fait, c'est dans un temple qui n'est pas préparé, qui n'est pas convenablement, où on sent que finalement il n'est pas attendu. Et donc, dès que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, et ça c'est Jean 14, verset 27 qui nous dit, c'est que le Père nous enverra au nom de Jésus, le Saint-Esprit, et pour nous enseigner toutes les choses, et pour nous rappeler aussi toutes les paroles de Jésus. Deux choses, Saint-Esprit. Il nous enseigne, il nous rappelle ce que Jésus a déjà dit. Et donc, malgré tout, l'exemple du peuple d'Israël montre qu'il y en a toujours, et ça nous parle aussi, qui veulent garder un pied dans les choses anciennes. Il y a cet épisode, quand on lit, à partir du début de l'histoire de Josué, il y avait trois tribus, donc Ruben, Gad et Manassé, qui ont dit, mais finalement, nous, on préfère rester de ce côté de la rive gauche du Jourdain. Parce que oui, on veut bien aller avec vous combattre, on veut bien goûter les bénédictions, on veut être bien voir la richesse des bénédictions de Dieu dans ce pays, mais on veut quand même rester aussi dans ces choses-là. Le désert, finalement, il y avait des choses qui nous allaient pas si bien, pas si mal que ça. Et ça, c'est quelque chose qui est pas normal. Même si Dieu bénit, même si Dieu est toujours là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il voulait que le peuple chemine et rentre en conquête totale de ce pays. Et même, si vous lisez un peu cette histoire de Josué, arrive un moment après le péché d'Acan, Josué est tellement découragé qu'il dit « mais on aurait dû rester de l'autre côté du Jourdain ». Et ça, tout le temps, ça tiraille. Toujours cette pensée, mais c'est pas pour nous, c'est trop dur. La vie est trop dure. Mais non. On est encouragé à conquérir, à avancer toujours plus dans cette vie de victoire. Donc toutes ces situations, elles nous parlent directement à nous aussi. Parce que nous aussi, on peut goûter bel et bien de toutes les bénédictions spirituelles que le Saint-Esprit nous donne. Et il nous donne, on peut les goûter de différentes manières, dans des moments de communion vraiment ponctuels. On peut le goûter ici par des moments de communion aussi fraternelle entre nous, où on voit l'action du Saint-Esprit. On le voit de la façon dont le Seigneur dirige nos cultes, nous enseigne, nous parle. On le voit dans des réponses claires de prières qui sont là comme un miracle, et on est surpris de cela. Mais c'est la normalité des choses. Avec Dieu, tout ça, c'est normal. Et donc, la parole, elle nous met en garde et nous rappelle que nous sommes destinés à être tout à lui, à être bouillants. On ne peut pas être comme ça des deux côtés. On est tout bouillant ou on n'est pas. Parce qu'il n'y a pas de service pour ceux qui sont tièdes dans le royaume de Dieu. Et donc, cette parole, qui est appuyée par le Saint-Esprit, elle nous interpelle vraiment à être cohérents dans notre engagement. Toutes choses sont devenues nouvelles et on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Et donc, dans ce plan de Dieu, tout est nouveau. Même notre intelligence doit être renouvelée. On l'a répété plusieurs fois. Et aussi, la perception que nous avons de ce monde, elle est aussi différente. Parce qu'on n'est plus de ce monde. C'est nouveau. On n'est plus de ce monde. Car on est des sujets du royaume de Dieu. Et en plus, on est plus que des simples sujets, on est aussi appelés à des princes. Enfin, on est des princes. Et aussi, il y a une chose qui est différente, c'est la perception que le monde a de nous aussi qui est différente. En revenant sur l'histoire des Cananéens, dès que les enfants d'Israël avaient traversé le Jourdain, Josué 5, verset 1, il nous est dit qu'ils perdirent courage. Enfin, les habitants du pays perdirent courage. Et ils furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Et ça, c'est aussi nous, ça. Nous, quand le Saint-Esprit nous anime, quand le Saint-Esprit a une liberté d'action autour de nous, on l'a évoqué, cette lumière qui rayonne autour de nous, naturellement, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit éclaire ce temple, les choses se remarquent. Il y a une différence qui est constatée. Il y a 1 Pierre 4, verset 4 qui dit « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient ?» Voilà le rôle du chrétien, voilà le rôle du témoin, voilà le rôle du Saint-Esprit qui fait que, oui, notre corps ne nous appartient pas à nous-mêmes. Que nous importe? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi qui compte? On l'a rappelé aussi dans Luc 12, Anne-Marie l'a lu. D'ailleurs notre propre vie, pour que ce soit la gloire de Dieu qui soit manifestée et la vie éternelle. C'est ça, cette vie. Et alors, ne croyez pas que c'est quelque chose de facile pour moi de dire ça, mais on est convaincu avec les anciens que cette chose-là, cette maturité, cette croissance chrétienne, elle est vitale. On ne peut pas rester toujours au même point. On est là pour grandir, on est là pour s'avancer, pour conquérir. Et forcément, on voit qu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Et on peut voir, et on va voir là, encore ce matin, par la parole, par le Saint-Esprit qui veut nous interpeller, qu'il a sa place. Lui a sa place et il doit avoir toute la place. Alors, non seulement il y a aussi les paroles qui sont visibles, mais il y a aussi tout ce que nous pratiquons. Et notre témoignage, il est aussi dans notre pratique, et ça se voit par les uns et les autres. Et il y a notre foi qui peut toucher les gens quand on leur dit, moi je crois que là, tu peux être délivré, tu peux être sauvé. Notre humilité, notre attitude d'humilité, toutes ces choses-là sont des choses que les hommes peuvent voir et qui sont des qualités que le Saint-Esprit aussi nous donne pour être en odeur de sainteté par rapport à ce monde aussi qui périt. Et si on continue encore dans l'histoire du peuple d'Israël, une fois que le peuple a traversé Israël, le Jourdain, la première chose aussi qu'ils doivent faire, c'est que les hommes doivent se faire circoncire. Ça, c'est tout nouveau aussi. Pourtant, c'est ancien, hein, les enfants devaient se faire circoncire, mais dans le désert, toute cette génération n'avait pas été circoncis. Et là, tous les adultes, les enfants, devaient se faire circoncire. Et ça aussi, ça nous parle, parce que Colossiens 2, verset 11, tu peux l'afficher, nous dit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ » qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà, ça veut dire que les fils d'Israël, là, acceptent de se laisser dépouiller. Et bon, vous n'êtes pas censé savoir que la circoncision, c'est se faire ôter une part de la peau dans une partie la plus intime de l'homme, et en plus qui est le signe bien souvent de la force, de la virilité. Et ça... Ça veut dire même ça, arrêter, accepter de se faire dépouiller de ses propres valeurs, de ce qui nous tient au plus fort de nous, accepter de se laisser dépouiller. Et donc la circoncision du cœur, c'est quelque chose qui se passe vraiment au plus profond de nous, dans la partie la plus intime de notre volonté. Et ça, c'est ce message de la croix aussi qui est transposé dans nos propres vies. Quand nous acceptons de crucifier, de faire mourir tout ce qui, en nous, est une source aussi d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Paul, il avait tout compris de ça. Il disait, mais si ces choses qui étaient pour moi des gains, ma force, ma connaissance, tout ce que je pouvais m'appuyer, qui me construisait d'alors, eh bien ça, je le regarde maintenant à cause de Christ comme étant une perte. C'est tout nouveau. C'est nouveau, mais c'est des choses dans lesquelles on doit aller et on doit s'enfoncer. Tout ce qui est pour moi un gain, mais maintenant c'est une perte. Et ça, c'est douloureux. Bien sûr que c'est douloureux. Et la circoncision, ça a été douloureux. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais je sais que c'est une souffrance qui dure. Et c'est pour ça aussi que le peuple a dû rester au calme. Dans le camp, il est resté, je crois, 2 semaines, enfin, je ne sais plus combien, mais il est resté au calme dans le camp à Gilgal. Et nous aussi, on a besoin d'un moment de calme. On a besoin de se laisser sonder par le Saint-Esprit qui veut nous enseigner toutes choses. Ça aussi, c'est le rôle du Saint-Esprit qui veut nous enseigner. Et il y a la prière, il y a la méditation, il y a la reconnaissance vraiment de nos faiblesses, il y a la repentance, il y a la louange. Tous ces moments-là, pendant ces moments de calme, que nous ayons ces moments intimes avec Dieu, où nous pouvons nous retrouver avec lui pour réaliser vraiment ce que ça veut dire aussi, ce dépouillement. C'est dur, ça prend du temps d'accepter cela. Mais c'est un chemin, c'est une étape cruciale dans la vie du croyant. Et ensuite, pour poursuivre donc la mission du Saint-Esprit, donc il nous rappelle, c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous rappelle toutes les choses que Jésus a dites. Et donc, il nous rappelle ce qu'il nous a dit au sujet, vous rappelez ce qu'il a dit au sujet de la foi qui déplace les montagnes. Des choses encore plus grandes que nous ferons, ça c'est Jésus qui l'a dit. Il nous a dit aussi que rien n'était impossible à Dieu. Et tout ça fortifié, cette parole rappelée par le Saint-Esprit, fortifiée par le Saint-Esprit, eh bien nous pouvons nous engager maintenant dans des combats qui jalonne tout le long de notre vie. Donc nous avons vu aussi, on avance dans cette conquête, mais qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et ça, c'est la victoire extraordinaire de Jéricho. Et ça, ça permet vraiment de voir concrètement les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Et ça, c'est Dieu à Jéricho qui dirige totalement le combat. Il a dit à Josué, mais vous y allez, vous allez gagner. C'est comme ça. C'est hop, 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 ça, la victoire est là, est assurée, parce que Dieu l'a promis. Mais là aussi, ils auraient pu dire, bon, attends, on va peut-être aller retourner maintenant de l'autre côté du Jourdain. Non, c'est un acte de leur foi, de leur part, et ils y vont. Ils vont à Jéricho. Et la victoire, on voit de quelle façon elle est éclatante. Mais on voit que, voilà, les victoires sont là, mais il y a aussi des attaques, il y a des trahisons. Et donc, on a évoqué ce péché d'Acan. Et ce péché d'Acan, quand on avance, donc à la suite de la victoire à Jéricho, où Acan prend de l'interdit, prend ce qui était anathème à Jéricho, parce que Jéricho, tout devait être détruit. Acan décide, lui, de prendre et de cacher un manteau. Et ça, ça nous révèle l'état réel du peuple et de son péché. Et donc, on transgresse, on désobéit au commandement de l'Éternel. Et donc, un seul péché a souillé tout le peuple et fait embraser aussi la colère de Dieu. Ça révèle vraiment notre nature humaine qui est facilement attirée par le péché. Et cette nature aussi humaine qui est opposée à la sainteté de Dieu. Par le péché, le cœur entier est souillé. Et puis évidemment, le Saint-Esprit en nous, il ne peut pas être souillé. Mais son habitation, donc nous, le corps, on voit qu'il peut être souillé. Et il peut l'être que par le péché. Alors bien sûr, la colère de Dieu qu'a connue Acan, nous on ne la connaît pas puisque toute la colère de Dieu s'est embrasée contre Jésus-Christ à la croix, et pourtant, et pas contre nous vraiment qui la méritions pourtant, mais cela n'empêche que l'état dans lequel nous mettons l'habitation du Saint-Esprit l'attriste. Et donc là, c'est une part étonnante, c'est que le peuple, donc, et à Jéricho, et ils ne daignent pas revenir à Gilgal. Ils ne veulent pas revenir à cet endroit où l'Éternel se manifeste, où l'Éternel parle, où l'Éternel se révèle. Et donc, ils ne s'en remettent pas à Dieu. Et le fait d'attrister le Saint-Esprit, finalement, pour nous aussi, on le met de facto un peu en second plan, et on perd alors un peu tout discernement des choses, et tout ça, c'est un obstacle aussi à notre bénédiction. Et on a vu que la désobéissance, on voit que cette désobéissance attriste le Saint-Esprit et forcément ça retarde la victoire. Haï, c'est la prochaine étape après Jéricho, c'est ce combat de Haï. Et là ils disent, on va y aller quelques-uns parce que c'est une petite ville, Haï ça veut dire ruine, on ne va pas y aller à nombreux. Et on voit que là, c'est encore c'est la première défaite cuisante du peuple. Et Haï, c'est cette idée finalement que l'on peut se passer de Dieu dans certains domaines de notre vie. Et Satan utilise toujours les mêmes moyens pour pousser les enfants de Dieu à désobéir à ses commandements. Et le premier moyen que Satan utilise pour détourner le peuple de Dieu, le peuple de Dieu du plan qu'il a pour lui, il met le doute. Il nous fait croire finalement que l'on peut mettre Dieu au deuxième plan en relativisant un peu sa parole. Et heureusement, le Dieu de la grâce, devant le découragement de Josué, reprend les choses en main. Josué, justement, 7, verset 10, quand Josué est totalement découragé, il dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché. » C'est clair, voilà, Israël a péché. Mais il n'en reste pas là. Il faut se relever et il demande à Josué de sanctifier le peuple. Cette même stratégie, le diable l'avait déjà utilisée avec Ève au moment de la chute. Il a dit, vous serez comme Dieu. Et puis il l'utilisera aussi avec la tentation dans le désert. Et Jésus est obligé de dire que l'homme, il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le deuxième moyen que le diable utilise, donc, c'est la ruse. Et ce que nous allons voir maintenant, avec la ruse des Gabaonites, et puis la troisième façon que on ne verra pas aujourd'hui, mais peut-être on verra, c'est l'attaque directe, c'est la persécution, c'est la mort que le diable aussi peut utiliser pour restreindre vraiment l'action aussi du Saint-Esprit. Et donc, ce que je vous propose, c'est de lire Josué 9, verset 1, cette histoire. On va l'afficher. Donc, Josué 9, verset 1. « À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Et les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse, et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outravins déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Et ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. » Et les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Et ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Mais qui êtes-vous, et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Ces outravins que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. » Donc là, on voit encore que, une fois encore, les œuvres de l'Éternel témoignent de la puissance de Dieu. Et cela interpelle les Gabaonites, ça a interpellé toutes les tribus là, qui étaient là autour. Et puis, voyant leur heure arriver, donc les Gabaonites ont pris le temps vraiment de s'informer. Et toute leur ruse, finalement, s'appuie sur ce qu'ils connaissent de la parole de Dieu et de l'action de Dieu. Et Josué et les chefs du peuple, bien qu'ils se doutent de quelque chose, on voit que ce n'est pas très clair cette situation, ils ne voient pas venir malgré tout le stratagème. Alors ils sont même peut-être rassurés que le renom de l'Éternel et tout ce qu'il a déjà fait, et ça c'est déjà connu donc autour, et ils trouvent cette idée-là vraiment comme un encouragement aussi pour eux, et parce que ces peuples étrangers, en ayant peur, peut-être partiront ou seront chassés par eux-mêmes. Et on voit que ce qu'ils connaissent, c'est la loi. Deutéronome 20, si vous voulez le lire, vous le lirez, de 10 à 15. Dieu avait dit au peuple d'Israël qu'il fallait offrir la paix aux villes qui étaient éloignées. Et il fallait par contre détruire toutes les villes là qui étaient dans ce quartier. Mais les villes éloignées, il fallait leur offrir la paix. Et s'ils acceptaient la paix, à ce moment-là, ils pouvaient être serviteurs au milieu du peuple. Mais les Gabaonites, là, qui étaient destinés à être détruits, comment les Gabaonites savaient ça? Comment avaient-ils appris ces choses-là? Et ça nous interpelle aussi, parce que le diable connaît très bien la parole de Dieu. Et on l'a vu avec les tentations à Christ, il sait utiliser les versets, il sait utiliser la parole pour essayer de mettre le trouble, et nous désorienter et changer un peu notre cap dans notre marche. Et donc ça, c'est une ruse, et ça, c'est l'arme la plus abjecte que le diable peut utiliser. Et la ruse, elle ne s'arrête pas là, parce que pour que le scénario soit encore le plus réaliste possible, ces Gabaonites utilisent, se déguisent, ils faussent l'apparence des choses, les vieux abris, les vieilles outres, le pain, Et même l'ennemi, là, n'hésite pas à utiliser des symboles qui sont les plus usuels et les plus parlants pour masquer la réalité. Et le diable connaît non seulement la parole, mais il connaît aussi les hommes et leurs forces et leurs faiblesses. Et une des faiblesses de l'homme, c'est que l'homme regarde aux apparences. On sait que Dieu regarde au cœur, mais Dieu, les hommes regardent aux apparences. Et là, même les chefs du peuple, les plus aguerris, n'ont pas vu venir le subterfuge. Et il y a un verset qui me fait mal, moi, c'est le verset que j'y mets en rouge. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Et là, pourtant, ils étaient à Gilgal. Ils étaient là où la pensée de Dieu pouvait être révélée. Et ils prennent, malgré tout, les provisions des Gabaonites. Il y a cette idée de communion, de marcher avec, de communier avec, finalement, l'ennemi. Et ça, sans finalement s'en rendre compte. Donc on se dit, mais comment ils peuvent être coupables? Ils ne savaient pas. Et ça, ça nous interpelle, parce qu'il y a des conséquences. Même si on ne sait pas, on a le devoir de consulter l'Éternel. On a le devoir de jauger, de se laisser sonder pour voir quelle est la voie dans laquelle nous marchons. Et cette succession finalement de mauvais choix qui entraîne le péché fait que de plus en plus on pêche, de moins en moins on est apte à discerner la volonté de Dieu et même ayant plus, de plus en plus difficile de s'y conformer. Et c'est pour nous, le Saint-Esprit aussi est attristé, c'est dans ces cas-là, et finalement notre corps a du mal à l'accueillir. On va lire la suite, verset 16. Trois jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux, car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour. Et leur ville était Gabaon, Kephira, Béroth et Kiriath-Jéarim. Et ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons, nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. » On voit que le peuple, donc finalement, reste dans cette continuité. Là encore, il me semble qu'ils ne consultent pas l'Éternel pour voir vraiment ce qu'il faut faire. Et ça, c'est la conséquence aussi de nos choix qui sont pris sans s'en remettre à la volonté de Dieu. On est dans l'embarras. Les responsables, là, sont dans l'embarras. Les peuples murmurent. Et là, c'est un peu le stress, c'est un peu la panique, et il y a la nécessité vraiment de trouver une alternative. Et donc cette idée aussi que ce sont les responsables qui ont péché. Et c'est pour ça que ça fait par rapport à Acan, finalement, que les conséquences sont un peu plus graves. Parce qu'on voit qu'il y a des reproches, il y a un tiraillement de communion avec les Gabaonites. La communion entre le peuple, elle est un peu difficile et délicate. Et on voit que, on peut le voir aussi à travers l'Église, les différentes orientations qu'ont pris des chefs, des pères de l'Église. On voit les schismes, on voit un peu tout ça. Alors on ne peut pas dire qui a tort, qui a raison, mais ce n'est pas le sujet. Mais on voit que ça a mis l'embarras. Et ça continue à nous mettre, nous, dans l'embarras, quand on veut parler de l'unité des chrétiens, quand on veut parler de l'unité du corps de Christ. On voit que ces successions de décisions qui ont été prises à haut niveau, les conséquences que cela entraîne. Et cette idée aussi que les responsables ont péché, ça nous interpelle aussi, nous, en tant qu'anciens, forcément, parce que qu'est-ce que l'on fait de ça? On est d'autant plus responsable par rapport à notre engagement, par rapport à ce que nous disons, et c'est pour ça que nous voulons encore rappeler l'importance de marcher. Et on voit que bien qu'il y ait des anciens, bien qu'il y ait des pasteurs, bien qu'il y ait des responsables, eh bien, le peuple aussi a sa responsabilité de dénoncer les choses et de pouvoir avancer ensemble et de chercher toujours, même la plus petite pierre, qu'elle ait à cœur de rechercher le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Alors, il y a plein d'images parallèles qu'on peut faire avec cette histoire de Gabaon. Il y a le parallèle avec l'ivraie qui est semée dans un champ où c'est mélangé finalement, il y a l'ivraie et puis il y a la bonne graine et la bonne plante. Et on voit qu'il faut attendre bien souvent des fois la récolte pour arriver à dissocier le bien du mal. Pour finir dans cette histoire, on voit que 4 siècles après, l'histoire des Gabaonites a ressurgi. Saül, qui était plein d'un zèle pour l'Éternel, il avait décidé de détruire et de frapper à mort tous les Gabaonites, parce qu'il les accusait peut-être qu'ils étaient une malédiction pour le peuple. Mais Dieu a été fidèle dans sa promesse qu'il avait donnée aussi à ces Gabaonites. Et Dieu ne va pas en faveur de Saül et il met justement 3 ans de famine dans le pays et même tous les fils de Saül sont détruits. Donc on voit qu'il y a des conséquences qui sont lourdes. On voit que le diable agit de façon, on le sait, mais c'est peut-être encore bien de se rappeler de quelle façon il use de ces différentes façons. Et cette conquête, ces épisodes-là de la conquête, eh bien forcément, elle nous parle. Parce qu'elle nous révèle que notre vie aussi, elle a des hauts et des bas. Nous sommes quand même en route, nous tous, vers Canaan. La conquête, pour nous, c'est celle de notre vie renouvelée par le Saint-Esprit qui nous aide à prendre le contrôle vraiment sur tout notre corps. La mission du Saint-Esprit, je le rappelle, c'est de magnifier vraiment Jésus-Christ, c'est de magnifier Dieu dans nos vies, de magnifier dans nos vies, de racheter l'œuvre de Christ, que Christ a réalisée à la croix. On l'a vu, notre corps ne nous appartient plus. Et donc, avec le Saint-Esprit, nous pouvons glorifier Dieu dans notre corps. Comme le peuple haï, nous pouvons nous confier dans nos propres forces. Et alors, on fait l'expérience là de la faiblesse. Comme le peuple, avec les Gabaonites, nous pouvons nous confier dans notre propre sagesse et voir les conséquences finalement de ne pas avoir préalablement consulté Dieu. Et ces 2 épisodes nous parlent directement, car ils montrent pour Haï comment le monde et le péché peuvent s'introduire dans le cœur du chrétien, et avec aussi les Gabaonites, comment le monde peut désorienter la marche du chrétien. Et dans ces situations, ce n'est pas toujours évident de revenir à l'Éternel pour lui donner la place qu'il mérite dans nos vies. Mais nous avons un grand Dieu, nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit, et puis nous avons aussi nos frères et sœurs, l'Église. Et tout est là, vraiment, pour que notre discernement soit éclairé. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas revenir à l'essentiel, de ne pas revenir à notre Gilgal, à la croix, de ne pas revenir à Christ. On ne peut pas se permettre de laisser divaguer nos vies. On est averti ce matin. Le péché dans notre cœur ou dans notre marche, vraiment, sont 2 ouvertures par lesquelles le diable a accès pour faire en sorte que nos corps ne glorifient pas Dieu notre corps ne soit pas ce temple qui est propice à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est justement vraiment là tout le sujet de la conquête. Nous sommes donc en route avec les luttes et les combats qui la jalonnent, mais avec notre vigilance et notre intelligence renouvelée, n'oublions pas vraiment que la victoire, elle est assurée. Et que tout au long de cette conquête, l'Éternel nous fera encore connaître la grâce de nouvelles découvertes dans ce pays et puis aussi de nouvelles révélations. Voilà, je prierai pour terminer. Oui, Père, nous avons besoin encore de toi. Nous avons besoin de grandir pour que ce corps, notre être, qui est le temple du Saint-Esprit, puisse être propre, puisse être, ne pas être souillé. Et à toi, Saint-Esprit, nous voulons demander pardon. Parce qu'il se peut que nous laissions plein de choses encombrées et qui t'attristent. et nous voulons te demander pardon pour que tu nous aides à y mettre de l'ordre encore aujourd'hui. Oui, nous voulons être sur ce chemin, nous voulons conquérir nos vies pour que, c'est vrai, nos vies glorifient le Christ, nos vies glorifient le Père. Et toi, Saint-Esprit, tu veux nous y aider. Tu veux nous aider encore ce matin à nous rappeler la parole, les paroles de Jésus. Tu veux nous diriger encore ce matin dans nos vies. Et nous attendons à toi. Nous savons que c'est toi qui est là, Saint-Esprit, à notre disposition et à la disposition de Dieu, trois fois saint, pour nous aider sur ce chemin, ici-bas, dans cette terre, pour que nous soyons ces lumières, pour que nous soyons ces témoins, pour que nous soyons, oui, le témoignage vivant de l'œuvre de Christ ici-bas. Merci à toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que nous voulons t'honorer encore dans nos vies et encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Bonjour, je partage avec vous les annonces, le programme de la semaine déjà. Alors demain soir, on a le conseil à 19h30. Mardi, on a les cellules. Alors c'est un petit peu les vacances, nos rangs sont clairsemés. La cellule de Collonges, Farges, Perron se retrouve chez Pierre et Déborah. La cellule de Gex. Alors la cellule de Gex, en ce moment, il n'y a pas grand monde. Alors moi, je vous invite, si vous habitez, pour ceux qui habitent de ce côté-là, à y participer, parce que ça nous permet de vivre des choses ensemble au niveau de la proximité, qui sont importantes et utiles pour l'Église, mais aussi pour chacun de nous. Donc la cellule de Gex va se retrouver chez nous. Et puis la cellule de Prefsaint. Alors normalement, elle se retrouve chez Emmanuel et Rebecca, mais je ne sais pas s'ils sont en vacances. Est-ce que tu sais, John? Vous ne serez pas là? Alors voilà, on ne sera pas nombreux. Donc la cellule de Prefsaint chez Pierre et Déborah. Ok, merci. Samedi, le groupe de jeunes. Dimanche prochain, oui.
Ce sera peut-être pas 20h, mais on va dire 20h.
Ok, d'accord. Donc samedi, le groupe de jeunes, horaire vraisemblablement à déplacer. Dimanche prochain, le culte ici à 10h30. Dans 4 semaines, le 15 mars, on aura le culte en commun. Donc on vous le redira. Mais je peux déjà vous dire qu'on cherche 2 à 3 personnes pour faire l'école du dimanche ce jour-là. Alors, vu que c'est un culte en commun entre les différentes églises protestantes et évangéliques, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des activités en commun. Alors, peut-être qu'il y a une personne de notre église qui peut participer à cette école du dimanche et qui peut le faire aussi avec d'autres personnes d'autres églises. Et moi, j'ai remarqué que c'est toujours très enrichissant de pouvoir faire des choses avec les autres chrétiens. C'est toujours intéressant. Alors, si quelqu'un est disponible, qu'il me le dise. Juste une petite nouvelle de Guylaine. Donc Guylaine était là au culte dimanche passé, nous n'étions pas là. Je l'ai appelée entre-temps, elle va mieux. Elle n'est pas là aujourd'hui. Figurez-vous qu'elle fête son anniversaire de 79 ans chez sa fille. Alors, c'est intéressant à savoir. Elle m'a dit qu'elle allait bien. Elle re-rentre demain malgré tout à l'hôpital pour la suite et la dernière étape des analyses et des recherches qu'ils font. Donc pensons à elle, normalement elle rentre pour 2 jours, elle devrait être là dimanche prochain. Cette semaine, on vous invite à prier pour un pays, comme on le fait toutes les semaines. On vous invite à prier pour l'Ouzbékistan. Pas évident de savoir où est-ce qu'il est, l'Ouzbékistan. Alors l'Ouzbékistan, c'est un pays qui est grand à peu près comme l'Espagne. C'est pas un petit pays donc, c'est un pays qui est au centre de l'Asie centrale. Donc, juste au nord de l'Afghanistan, c'est donc un pays dans lequel c'est difficile d'être chrétien, de par le fait que le gouvernement est extrêmement strict avec tout ce qui pourrait mettre en péril le gouvernement, justement. Alors, pensons à nos frères et sœurs chrétiens là-bas dans ce pays. Il y a environ 200 000 chrétiens. C'est peu par rapport à la taille du pays. Pensons à eux, prions pour eux. C'est important aussi se soutenir les uns les autres par rapport à cela. Voilà, c'est le numéro 15, là. 15, ouais. Ouais. S'il n'y a pas d'autres nouvelles à partager, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore un verset. Un verset dans 2 Pierre 3, le verset 18. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, soyez bénis.